Chantal et Marceau.
Je pense que c'est le temps de le dire, c'est le temps de me plaindre. Je travaille dans des conditions assez particulières. Je suis face à une armée de grippeux et ils ne m'ont pas encore eu.
Moi, Denis m'a achevé, là.
Mais Denis, mais il est malade depuis quoi? 3 mois?
Facile.
4 mois?
Les semaines que je suis pas malade, ma blonde est malade. C'est un hiver
les
de
enfants.
Marde.
Mais pourtant, la garderie, c'est fini depuis un bout.
Je pense que c'est l'aréna qui aide pas. Tu sais, c'est frisquet un peu à l'aréna. Puis ça fait une couple de fois que je pogne le frisson, là, genre qui part pas. Là. Tu sors de l'aréna, t'es rendu chez vous, puis tu frissonnes encore. Là.
C'est-tu l'âge?
Probablement le manque d'activité physique, le manque de soleil, pis tout. Là,
parce que moi, les épisodes de garderie, Denis, là, j'étais malade.
Ah, c'est l'enfer!
Aux 3 semaines, au mois, j'étais tout le temps malade. Puis là, maintenant, on dirait que le système immunitaire s'est amélioré ou bien ça a changé un peu à l'école. Mais là, ici, à la station, tout le monde mouche.
Ben, c'est que moi, avec les gars, j'ai vécu la garderie, puis la garderie, ils me disaient, bon, ben après ça, t'as pogné le micro, puis t'es endurci. Bon, clairement, j'avais pas la bonne armure pour ça, mais ils ont changé d'école pour les 3 premières années, puis après ça, ils ont changé d'école. Pis j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu changes de milieu scolaire, tu changes de milieu de microbes aussi. Là. C'est comme repartir à zéro à peu près. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit chez les Gravel, puis c'est vraiment un hiver interminable.
C'est un mythe de penser que le froid rend malade. C'est juste que le froid rend plus facile la propagation de virus.
Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'en hiver, il y a plus de gens qui tombent malades parce que ben, le virus se propage plus.
Ouais.
Mais c'est peut-être ton système immunitaire qui n'est pas extraordinaire non plus.
Probablement.
Il y a Marc Hamilton, qui est microbiologiste, qui est un de nos collaborateurs avec qui j'adore parler, qui avait dit, tu sais, pour lutter contre la grippe, il y en a qui vont inventer une multitude d'affaires. Là. Prends tel produit, prends des vitamines, prends du jus d'orange, la Floride, prends ci, prends ça. Mais dis tout ce que ça prend, là. C'est du repos.
Ouais. Mais tout. Le repos, c'est un luxe qu'on est très nombreux à ne pas pouvoir se permettre.
C'est impossible.
D'ailleurs, on va tester un remède de grand-mère cet après-midi.
Oh.
Véro s'en va chercher les ingrédients chez elle tantôt. Elle va me faire une ponce de gin.
Ah, c'est le fun, ça.
Attends un peu, là. La ponce de gin?
Ouais. La recette officielle là, sur le site de la SAQ.
OK. Fait que celle-là, je pense que celle-là, il n'y a aucun danger. Je pense que le danger qu'il pourrait y avoir, c'est le fameux remède de grand-mère, la mouche de moutarde.
Ouf!
Parce qu'il y en a qui se brûlaient la peau avec ça,
hey.
Dans le temps,
ouais.
À raison de la concentration.
C'est drôle, hein? Quand on a pensé à faire des remèdes de grand-mère, on est tout de suite allé à ponce de gin, puis on n'a pas pensé à mouche de moutarde.
Non, gin, miel, jus de citron, ouais. Eau chaude, un peu de rondelle de citron ou clou de girofle.
Clou de girofle, oui.
C'est bon, à la limite, là. C'est un cocktail, honnêtement.
C'est supposé, j'ai hâte de voir.
Je pense plus que c'est une excuse pour boire un faux cocktail. Qui est un cocktail?
C'est une théorie intéressante.
Mais moi, j'adhère. J'adhère, Denis.
Moi, je suis malade, j'ai besoin de soins.
On peut en prendre à longueur de journée.
En fait, t'as plus besoin d'alcool que d'eau chaude.
Les deux. Faut connaître son carburant.
Exact. Je sais pas si t'as vu le sondage léger qui est paru dans la presse de ce matin. Je trouvais ça intéressant d'en jaser. Quand Léger avait fait un sondage pan-canadien, à savoir, il y a combien de Canadiens qui accepteraient de devenir le 51e État? C'était autour de 9 %.
Oui.
Honnêtement, j'ai été surpris parce que je pensais que c'était plus que ça.
Ah ouais?
Ben, j'ai un billet de proximité avec certaines personnes qui me mentionnent régulièrement que eux autres vivent à l'américaine, ils adoreraient ça.
Okay.
C'est des gens qui m'entourent.
Ouais.
Fait que tu comprends que moi, je suis un peu biaisé.
T'es d'une bulle.
Je t'aurais dit 10, 20, mettons, même 30. Là.
OK.
Puis même aussi, pour certains trucs, j'envie les Américains, pour d'autres, un peu moins. Mais c'était 9 %.
Je pense qu'on pose la question quand il se passe rien entre les deux pays, puis t'as peut-être un 15 %.
Ça serait plus élevé.
Là, il y a comme un sentiment de fierté canadienne qui est ressorti très fort depuis le début des niaiseries de Trump. Mais peut-être qu'on est à ça, là, 12-15 % en temps normal. Là.
Ils ont fait un sondage pan-américain.
C'est très drôle.
À savoir, il y a combien d'Américains qui aimeraient intégrer actuellement le Canada? Puis c'est beaucoup plus élevé, c'est 20 %.
Oui, 20 %. Un Américain sur 5 qui aimerait que son État devienne une province canadienne.
L'idée d'intégrer le Canada met en lumière un fossé générationnel, nous dit-on aux États-Unis, alors que l'appui grimpe à 30 % chez les répondants de 18 à 34 ans. Et ça chute à 11 % chez les 55 ans et plus.
Encore là, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le contexte actuel. Le pourcentage chez les Américains baisse. Mettons qu'on pose la même question dans le temps que Barack Obama est président. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'Américains que ça. Là, il y a Trump polarise. Trump extrémise. Puis là, j'ai l'impression que les gens qui haïssent Trump aux États-Unis présentement, ils aimaient leur vie, mais là, soudainement, on se fait poser une question de sondage sur « t'aimerais-tu mieux être Canadien? » Puis là, émotivement, tu vas répondre oui. Alors qu'il y a 3 ans, avec quelqu'un d'autre, Biden, Obama, même George Bush, il y a des gens qui répondraient pas là, de cette façon-là. J'ai l'impression que le contexte actuel est au Canada et aux États-Unis. Fausse un peu la donnée.
Ouais, Léger a consulté les Américains à savoir est-ce que vous êtes d'accord avec la fameuse guerre commerciale que Donald Trump a déclenchée contre leurs voisins canadiens. C'est 35% seulement des répondants qui ont dit appuyer les droits de douane imposés au Canada par l'administration Trump. Puis, tu sais, quand je sors de mon...
C'est moins populaire que le tramway, ça. C'est très bon. Très, très bon.
Puis, quand je sors de mon cercle d'amis, là, puis j'ase avec des gars comme Paul Laurier, qui est un ancien policier de la Sûreté du Québec qui travaillait en informatique puis qui nous parlait ce matin. Lui, il habite aux États-Unis là, pendant quelques mois par année. C'est un snowbird.
Okay.
Et il m'a dit qu'il y a des Américains qui l'approchent quand ils voient sa plaque d'immatriculation puis ils s'excusent. S'excuse à M. Laurier.
Mais ça se passe vraiment beaucoup en ce moment. Ouais. Puis il y a beaucoup d'Américains. Moi, ce que je me fais dire par des gens en voyage hors Amérique puis Canada, c'est qu'ils disent plus. Ils disent plus d'où ils viennent. Ils ont de la misère, ils vont chercher la ville, la municipalité dans laquelle ils vivent au lieu de l'État, mettons. Mm. Hey, avant, là, mais, le rêve américain, c'était une fierté de dire que tu nais des États-Unis.
C'est un drôle de contexte, puis c'est une drôle d'époque qu'on commence à vivre.
Ouais. J'ai hâte de voir la suite. C'était le gros branle-bas de combat. Là, on est en train de penser que ce serait la fin du monde automobile au Canada. Là, d'un côté, on pénalisait les Chinois en raison de leur régime, puis on leur appliquait, quand il y a un véhicule qui rentrait ici, on leur appliquait un 100% de frais de douane. Là, on est en train de se dire, parce que le grand frère est en train de nous virer le dos, on va mettre ça à zéro, faire rentrer les Chinois ici. La route tourne, mais c'est vraiment weird.
Oui, ça tourne en accéléré. C'est vraiment Trump qui a donné un coup de pied sur un nid de guêpe, puis là, c'est la panique, puis tu vois que ça peut avoir des effets dévastateurs, tu sais. L'industrie automobile au Canada, en Ontario, ça fait vivre combien de personnes?
Ah, c'est des dizaines de milliers de personnes.
C'est énorme, peut-être des centaines de milliers de personnes, sans exagérer, là. Prenons un exemple. Mettons que tu es un ardent souverainiste, puis que tu haïs les Anglais. Tu ne souhaites pas ça au Canada dans le contexte économique actuel, puis tu ne souhaites pas ça aux Ontariens. Nous autres aussi, on va vivre les effets de ça. Puis je sais que c'est un point que tu as beaucoup fait cette semaine, mais dans ce contexte-là, d'avoir des idiots souriants à la tête de la province qui nous présentent un budget de marde où il n'y a rien qui se tient, puis qu'ils le font en souriant comme des idiots.
Et qui s'applaudissent, là.
Il n'y a rien de rassurant là-dedans.
Non, et qui s'applaudissent. Oui. C'est vraiment gênant.
Mais je trouve que ça se divise, puis quand vous dites que la roue tourne d'une manière, moi, je pense qu'elle tourne du mauvais côté.
Elle tourne dans le clos.
Ça joue aussi sur la démocratie, puis on va voir les impacts négatifs de tout ça dans quelques années. Je pense pas dans les prochains mois, mais dans les années, puis j'espère vraiment que toute cette hémorragie-là va stopper. Sauf que j'ai l'impression que finalement, ça va être encore plus une plaie ouverte. Là. Donald Trump, ce qu'il est en train de faire, en train de diviser son propre peuple, diviser tout ce qui est occidental, diviser ses alliés de longue date à la défense de la démocratie, des droits humains, X, Y, Z, pour, je sais, vous avez une vision peut-être, vous dire, oui, mais plus qu'on est proche de l'ennemi, je comprends, mais pas de cette manière-là. Tu vas pas aller donner des bonbons à ton ennemi, tu vas être proche de ton ennemi pour pouvoir discuter. Là, je trouve ça difficile à constater.
Ben, il n'y a pas beaucoup d'ouverture à la discussion. Puis, il y a encore un scénario qui est possible, le scénario Britney Spears. Ça se peut que Donald Trump ne finisse pas son mandat puis qu'il sorte de la Maison-Blanche sur une civière avec une camisole de force. Là.
Ouais.
Le scénario Britney Spears.
Je pense que jusqu'aux midterms, là, on va avoir des grosses difficultés avec le grand range, mais après ça, ça devrait être un peu plus relax. C'est pas la première fois qu'il s'essaye là, de nous causer du trouble.
Tant que ça reste de la guerre économique, ça va bien aller. Quand il va se rapprocher des gros boutons rouges, là, il y a des gens adultes qui vont intervenir pour l'enlever de là.
Là, je sais pas ce que le maire va faire. Je sais qu'il a annoncé qu'il allait tenter d'aider Saint-Roch, d'aider les commerçants et tout ça. Bon, on a annoncé de l'argent dans les dernières heures.
Couronne-Nord.
Couronne-Nord aussi. Je trouve ça intéressant. Mais pour ce qui est de Saint-Roch, il faut vraiment se pencher là-dessus. Puis encore des mauvaises nouvelles qui tombent. On en a parlé, toi et moi, il y a de ça quelques semaines, les gens de la CNESST qui pensaient à se pousser de Saint-Roch en raison du fait que Chris, les employés se font agresser.
Non, ils aiment pas ça.
Ils aiment pas ça. Les chars se font vandaliser. Ils veulent pas le dire que c'est en raison des gens qui sont troublés dans Saint-Roch. Là, sont un peu gênés de le dire.
Mais il y a des bodyguards pour les amener à leur char.
Mais là, ils se poussent, puis ils s'en vont directement au 1600 avenue d'Estimauville. Ce qui va faire revivre ce secteur-là, qui était un secteur, quand moi j'étais jeune, Denis, là, qui était un secteur exactement comme Saint-Roch.
Comme Saint-Roch,
ouais. Il y avait du monde qui était mêlé au corps de tour.
Oh, oui.
Ça se promenait dans le Maine, dans le secteur du Woolco. Mm-hmm. Je ne sais pas si toi, si tu sais où il était, le Woolco, à l'époque. Là. D'ailleurs, je pense qu'il a été démoli puis ils ont mis un gros stationnement, mais il y avait un gros Woolco.
OK, il n'était pas dans le centre d'achat.
Il y avait un mail qui était annexé à ça.
Okay.
Puis le monde mêlé, il était là. Après ça, il y avait les gens mêlés à Canardière. Puis après ça, il y avait les gens mêlés qui se faisaient traiter à Robert-Giffard. Là, on fait le chemin inverse. Là, c'est Saint-Roch. Il y a des gens qui sont mêlés là. On s'en va à Destimoville, à côté de Robert Giffard.
Ben, au moins, ça les rapproche d'un endroit. Mais non, c'est impossible que cette nouvelle-là soit vraie. Parce que le ministre responsable de la Capitale-Nationale, qui est très au fait de la situation, Jonathan Julien, nous disait que non seulement les fonctionnaires allaient rester dans Saint-Roch, mais qu'on allait augmenter le nombre de fonctionnaires dans Saint-Roch. Donc, clairement, il y a quelqu'un qui nous bullshit. C'est-tu le journal Le Soleil? Qui semblent très au fait de la situation, étant donné que leurs quartiers généraux sont en plein cœur de Saint-Roch, même dans le même building que plusieurs centaines de fonctionnaires, ou le ministre qui nous disait il n'y a pas si longtemps que Saint-Roch c'était beau puis qu'il fallait penser positif, gang. Hi, guys!
Ce qui me tue, c'est qu'ils disent pas nécessairement la vérité sur leur déménagement.
Ah, il y a de l'hypocrisie. L'explication est belle, là.
La CNSST se dit consciente des enjeux sociaux présents dans le quartier Saint-Roch et de l'insécurité que cela peut générer auprès de ses employés, mais c'est une raison économique qui la pousse à plier bagages de Saint-Roch. Bullshit.
On dit que, étant donné qu'on permet le télétravail maintenant, payer deux loyers alors qu'on peut consolider le quartier général de la CNESST qui est déjà du côté de Destimauville, c'est une explication qui, retirée de son contexte, tient la route. Mais on est dans un contexte où des fonctionnaires ont besoin d'agents de sécurité pour réintégrer leur voiture après le travail. Arrêtez de contourner le problème, vous ne l'aidez pas. Adressez-le. Dites-le que c'est ça le problème. C'est de l'hypocrisie. Oui. C'est de l'hypocrisie sociétale. Ça aide pas personne.
Puis, bon, peut-être que ce sera pas ça non plus, mais je pense qu'il y a plus de stationnement dans le secteur d'Estimauville
absolument.
Qu'à Saint-Roch.
Ah oui, incontestablement.
Fait que d'après moi, ça va faire l'affaire de certains fonctionnaires là, de pouvoir être capable de se déplacer avec leur véhicule sans que ça leur coûte un 200$ par mois pour se stationner.
C'est sûr.
C'est clair et net, clair et net. Mais je trouve ça dommage pour les commerçants de Saint-Roch. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Là. Pierre-Luc Lachance a annoncé qu'il quittait, ce qui est une très bonne nouvelle pour Saint-Roch, là, malgré que c'était Superman à Saint-Roch, là, si on en croyait ce qu'il mentionnait. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont mettre en place. Moi, j'ai un de mes chums que tu connais bien. Ben, en fait, tu connais plus son fils, là, mais Stéphane Leblond. Stéphane Leblond, syndic autorisant d'insolvabilité. Lui, il fait affaire là depuis des décennies. Si je ne me trompe pas, son père était là aussi. Oui. Puis il est à bout, là. Mm-hmm. Je veux dire, lui, c'est sa vitrine en bas qui se fait casser. C'est des gens qui traînent autour de sa business qui peuvent dormir ou pisser directement sur la bâtisse ou dormir dans la cour arrière.
Mais la seule chose, c'est que c'est proactif en ce moment. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais par rapport aux gens qui s'y installent, hier, il y avait un... Puis Valérie Godreau va nous en parler tantôt, était là. Mais si j'avais pu être un petit oiseau, me multiplier, être à deux endroits en même temps, je serais en onde. Puis j'aurais été aussi dans cette consultation-là où il y avait commerçants, restaurateurs, il y avait des gens pour le stationnement, il y avait des employés de la ville, il y avait des journalistes qui se sont rassemblés puis ont fait un panel sur Saint-Roch. Où est-ce qu'on s'en va? Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut avoir une vision commune de Saint-Roch sans attendre juste les instances politiques?
Peut-être prévenir aussi ce qui s'en vient, parce que moi, je trouve qu'on donne un autre coup de pied risqué dans cet écosystème-là en disant aux nombreux sans-abri qui se sont installés sur le parvis de l'église à Saint-Roch, ben là, tassez-vous, parce que là, il y a des spectacles qui se donnent là avec Human Factory, puis il faut clairer la place. Reprendre un si bel endroit, puis faire en sorte qu'on puisse recommencer à aller prendre du soleil là-bas, prendre des photos, qu'on investisse l'église, puis tout ça, je ne vois que du positif là-dedans. Mais ceux qui sont installés là depuis 5 ans, depuis 10 ans, on les fait déborder où? Vers la rivière Saint-Charles? C'est un autre beau spot où c'est le fun d'aller.
Ouais.
C'est-tu là que ça va devenir épeurant puis désagréable? Je veux dire, il y a un problème, il y a un surnombre, ça déborde de partout. Puis si on n'a pas de stratégie pour canaliser ces gens-là, ben on fait juste déplacer un problème qui va toujours rester le même problème.
J'espère que ça sera pas pour endosser le nouveau projet là, de maison qu'on veut faire, entre autres, puis on cherchait où ça va-tu être à Beauport, ça va-tu être à ci, ça, ça. C'est pas un projet dans lequel tu peux te dire, ben, c'est ça, on a besoin. Voyez-vous, il faut le faire, parce qu'il n'y a plus d'endroit où aller. Avant, c'est le parvis de l'église. Maintenant, on a revitalisé un peu Saint-Roch, on les envoie là. Ça ne peut pas être un projet de genre, on comble un trou. Il faut que ça soit un projet qui est réfléchi, qui est travaillé.
C'est pas évident.
Avec les gens du terrain. Moi, j'ai juste peur que ça soit peut-être politiquement approché comme étant. Ben, on n'a plus le choix. Voyez-vous, il faut ça.
Ouais.
Sinon, on crée un autre problème, pas juste un déplacement.
On a beaucoup attendu, puis on paye le prix de ça.
La CNSST, la bâtisse serait sur l'ancien terrain du Woolco.
Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y avait deux bâtisses. Là, ils retournent dans la bâtisse qui était supposée d'aller toute la gang. Fait que il va y avoir peut-être effectivement une économie, mais en bout de ligne, les fonctionnaires vont être bien contents de ne pas se faire attaquer quand ils vont travailler. Puis peut-être d'y aller en voiture aussi, ça va aider. Hey, Pascal, je t'avais demandé, je sais pas si tu l'as lu le papier, mais j'ai trouvé ça intéressant. Aux États-Unis, il y a des gens qui étaient chargés de faire un plan de guerre. À un certain endroit. Le Signal Gate, l'as-tu vu passer, Denis?
Non, c'est quoi ça?
Pascal, t'as travaillé là-dessus?
Oui. Force est d'admettre que j'ai passé la nuit là-dessus.
B, qu'est-ce que ça donne?
Un échec, là.
C'est un échec?
Ben, tu trouves pas?
Moi, j'ai passé la nuit à essayer de dormir. C'est un échec aussi. Chacun ses échecs.
Non, mais c'est un plan militaire qui a été divulgué par erreur. Qui gagne de plus en plus en intensité sur les réseaux sociaux parce que The Atlantic a réagi au fait que l'administration américaine disait « Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de plans de guerre là, qui ont été rendus disponibles pour un journaliste américain. C'est impossible. »
On parle de la fameuse conversation où un journaliste pensait que quelqu'un faisait une joke et il a réalisé qu'il était dans une conversation top secrète avec les top dirigeants des États-Unis puis qu'on parlait stratégie de guerre internationale.
Il s'est ramassé par son courriel de job dans une loupe de courriel avec des gens du genre tout ce qui est stratégie militaire, secrète, organisation et politique.
C'est bien pire. C'est bien pire que la valise à Maxime Bernier là.
Mais pour une opération militaire qui était survenue au Yémen, puis au départ de ce qu'on comprend, c'est que le journaliste pensait que c'était une joke. Mais là, une fois qu'il a vu les gars commencer à se féliciter entre eux puis mettre des emojis tout ça, il a vérifié si les frappes avaient bel et bien eu lieu au même endroit où c'était écrit. Puis il s'est rendu compte que ces éléments-là avaient été mis dans le courriel le même que lui.
Parce que lui, il lisait la conversation puis il se disait « Je comprends que J.D. Vance, c'est un gros niaiseux, mais il n'est pas cave à ce point-là. Là, il y a quelqu'un qui me niaise puis qui le caricaturise. »
Bien, tout le monde aurait eu ça. Je pense que beaucoup de gens auraient eu cette réaction-là.
Bien là, c'est parce que nous autres, on s'imagine, on a vu trop de films là, que tu as des lanières et des lanières de sécurité qui empêchent quiconque d'embarquer d'une conversation où tu n'as pas d'affaires quand c'est top secret.
Et les États-Unis sont reconnus pour avoir ces systèmes de défense-là par rapport à des informations qui sont secrètes depuis des années, depuis la guerre froide même, qu'on était capable de prouver de façon tangible qu'on avait mis de l'argent, du perfectionnement, de la technologie. Il y a un moment où on s'est assis sur nos lauriers, je ne sais pas, mais clairement, ça, c'est une histoire de l'administration Trump.
Il y a quelqu'un à la Maison-Blanche qui aurait dû allumer quand ils ont lu « The Atlantic Media has just entered the chat
». Moi, je l'ai pas, la fameuse messagerie signée.
Mais moi, c'est le moment où Donald Trump dit « C'est de la merde, The Atlantic, de toute manière. » Mais c'est quand même un média très réputé en passant.
Puis la conversation se promène maintenant à grandeur du monde. C'est prouvé factuellement.
Fait que je ne l'ai pas, la messagerie Signal. Je ne sais pas si, justement, quand ils ont dit « Voici le journaliste qui vient d'être mis sur la conversation. Il n'y a personne qui a loadé. » Je ne sais pas si c'était possible de le voir. Mais le Conseil de la Sécurité nationale a confirmé que l'échange était authentique et a entrepris des vérifications pour voir comment le journaliste avait pu se retrouver dans le groupe, alors que l'administration Trump a dit « Non, c'est pas vrai, ça n'est jamais arrivé. »
Il dit ça tout le temps. Il perd tellement de crédibilité. Puis le moment où il a ajouté vraiment, je répète, là, c'est de la merde du Atlantic, j'étais « Ben voyons donc. »
Ben tu sais, à petite échelle...
Ça parle de lui, là.
À petite échelle, ils réagissent comme on réagit souvent ici, je veux dire.
Il n'y a pas
de problème avec les comptes de taxes. Tout le monde est supposé recevoir ses comptes de taxes, puis vous payerez avec les intérêts, puis 4 jours plus tard, t'es obligé de backtracker puis dire « Ouais, finalement, on ne vous fera pas payer les intérêts, il y avait un problème. »
OK, réagir comme ça ici pour toi, c'était par Bruno Marchand.
Ben, réagir en se bombant le torse puis dire « Non, n'a pas de problème. » Saint-Roch.
Okay.
On a plein d'exemples comme ça. C'est une attitude en politique, puis je comprends que c'est exagéré, puis c'est pire aux États-Unis, mais c'est toujours une mauvaise attitude en politique de se bomber le torse en disant « Non, 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 il n'y en a pas de problème. »
C'est une très mauvaise attitude en politique. Mais je veux juste apporter une réflexion supplémentaire, parce que souvent, c'est attribué à un type de personnalité et de trouble de la personnalité.
Narcissisme?
Je pose probable. Une réflexion.
T'aimais-tu une hypothèse?
J'aimais une réflexion basée sur des observations, certains cours.
Moi, je suis à l'inverse. Dès qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui accuse quelque chose, moi, je m'excuse. Je prends pour acquis, c'est moi.
Mais ça parle beaucoup d'un trouble de la personnalité.
Oui, je porte le poids du monde sur mes épaules. Je m'excuse.
Denis Gravel, c'est toujours un plaisir.
Déjà?
Désolé.
Midi 24, 418-971-1021, 418-971-1021. Si vous voyez quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. On revient avec Antonine Iacarini, notre analyste politique qui sera avec nous autres dans les prochaines secondes.